VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Conakry, 18h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, appel au calme du ministre ivoirien de la Défense à la télévision nationale ce vendredi. Alain Richard Donwayi a demandé à l'armée de rester calme et de regagner ses casernes pour que des solutions durables soient trouvées aux problèmes des forces armées ivoiriennes. Cet appel fait suite à la mutinerie des ex-rebelles intégrés dans l'armée à Bouaké, la deuxième ville du pays. Mutinerie qui s'est ensuite étendue à deux autres agglomérations, Daloa, la capitale de la zone du cacao dans le centre-ouest, et Korogo dans le nord. La révolte a commencé très tôt ce matin avec des tirs à l'arme lourde à Bouaké. Jean-Roger Bion a joint sur place Rufine Koulibaly, une habitante de Bouaké, pour le film des événements.
Bon, ça a commencé aux environs de 1h du matin. Ils sont passés à la préfecture de police et puis dans des commissariats. Donc actuellement, ils sont en train de tirer, ils sont en ville. Bon, on ne sait pas au juste c'est quelles revendications ils sont en train de faire. Donc tout le monde est rentré, tout le monde a fermé ses magasins. Tout est fermé au commerce, les entreprises, les banques, tout. Tout est fermé, les écoles aussi.
Alors qui tire justement dans les rues?
Bon, c'est les corps habillés là, c'est les militaires.
Ils viennent de quel camp de Bouaké?
Bon, à Bouaké, il y a plusieurs camps. Mais on ne sait pas juste dans quel camp ils viennent. Puis il y a le 3e bataillon, il y a le camp commando. Et on avait dit que c'était les choses, les démobilisés. Après, on nous dit que non, il y a des militaires dedans. Donc tout le monde est chez lui, quoi. Donc on ne sait pas juste c'est quelles revendications ils sont en train de faire. Parce que, bon, Bouaké a vécu la crise. Donc c'est comme ça va commencer au début. On pensait que c'était une petite histoire. Puis bon, c'est devenu une grande histoire. Donc tout le monde est sur qui vit. Chacun est chez lui pour voir comment ça va se terminer.
Rufine Koulibaly, une habitante de Bouaké. Un officier a confié à l'AFP sous couvert d'anonymat qu'il s'agit, je cite, d'une mutinerie des ex-combattants intégrés dans l'armée qui réclament des primes de 5 millions de francs CFA plus une maison chacun. Un simple soldat a lui affirmé à l'AFP « Nous réclamons non pas 5 millions de francs CFA, mais plutôt 10 millions chacun plus une villa. Le cas échéant, nous ne regagnerons pas les casernes », a-t-il ajouté. Le chef de l'état-major et le ministre ivoirien de la Défense en personne sont attendus à Bouaké. Le gouvernement a réuni un comité national de crise et devrait faire avant la soirée le point de la situation. Niger, 177 civils ont été tués et 137 blessés dans les attaques attribuées au groupe djihadiste nigérien Boko Haram entre le 6 février 2015 et le 30 septembre 2016 dans la région de Difa, dans le sud-est du pays, proche du Nigeria. Selon des chiffres publiés ce vendredi par l'ONU à Niamey, 13 personnes sont portées disparues et 4 ont été kidnappées par Boko Haram, souligne le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA. Ces données ne tiennent pas compte des attaques de Boko Haram entre octobre 2016 et janvier 2017, période où les incursions du groupe djihadiste au Niger se sont raréfiées. Boko Haram, qui ne dispose pas de base au Niger, a mené ses premières attaques dans le pays le 6 février 2015. L'agence onusienne ne fournit pas de bilan des militaires nigériens et des combattants de Boko Haram tués dans les affrontements. Nous passons au Nigeria. Une nouvelle lycéenne de Chibok, enlevée il y a près de 3 ans par le groupe islamiste Boko Haram, a été retrouvée par l'armée. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
Rakia Aboubkar avait été enlevée le 14 avril 2014 avec 275 autres lycéennes de Chibok. Elle a été retrouvée près de la forêt de Sambisa avec son bébé de 6 mois, a annoncé dans un communiqué Sani Ousmane, porte-parole de l'armée. La jeune femme est actuellement examinée par des médecins militaires et devrait ensuite être confiée aux autorités de l'État de Borno. Le groupe Bring Back Our Girl ou Ramenez-nous nos filles n'a pas confirmé l'identité de la jeune fille pour l'instant. L'armée nigériane a également affirmé que 1400 civils accusés d'être des membres du groupe djihadiste ont été arrêtés entre le 28 décembre et le 4 janvier dernier. Début novembre, une jeune fille avait également été retrouvée près de la frontière du Cameroun et à la mi-octobre, le gouvernement nigérian avait réussi à négocier la libération de 21 d'entre elles. 195 lycéennes sont toujours disparues.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, la CENCO, la Conférence épiscopale catholique du Congo, multiplie les contacts avec les différentes structures et personnes l'instabilité politique du pays pour obtenir l'inclusivité de l'accord de sortie de crise signé le 31 décembre. Après le MLC, le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba hier, les évêques catholiques ont échangé ce vendredi avec le Premier ministre Sami Badibanga, qui est à la tête de la frange de l'opposition qui boude l'accord de la CENCO. Plus de détails à Kinshasa avec Gino Reima de Top Congo FM, notre station partenaire dans la capitale congolaise.
Après le renouvellement de leur mandat par le président Joseph Kabila, les évêques membres de la CENCO se sont lancés dans une campagne pour sensibiliser les non-signataires de l'accord du 31 décembre dernier. Jeudi, ils ont rencontré le Front pour le respect de la Constitution. Ils ont, à l'issue de leur échange, obtenu la promesse de la signature de l'accord par le Front pour le respect de la Constitution, une plateforme de l'opposition politique dans laquelle le MLC est le parti principal. Ce vendredi, ils étaient à la primature où ils ont échangé avec le premier ministre Sami Badibanga, qui est à la tête de la frange de l'opposition, signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine. Cette frange refuse d'adhérer au compromis de la CENCO. Malgré toutes ces démarches, les évêques sont loin d'obtenir la signature des opposants signataires de l'accord du 18 octobre dernier, puisque ces derniers ont fait une déclaration aussitôt après leur échange avec les évêques pour signifier qu'ils continuent à rejeter l'accord politique signé au centre interdiocésain. Entre-temps, la suite de travaux, c'est-à-dire les arrangements particuliers, n'avance pas du tout. Les différentes parties prenantes aux discussions de la CENCO continuent à déposer leurs propositions au bureau de Monseigneur le Président Marcel Outembi. Depuis Kinshasa, Gino Reima de Top Congo FM pour VO Afrique.
Oui, on sait, semaine meurtrière pour la MINUSCA, la munition de l'ONU sur place. Un casque bleu bangladais a été tué hier dans le nord-est du pays. Une zone où s'affrontent des éléments armés Peul, les anti-Balaka et les miliciens de la faction des 3R, à savoir retour, réclamation et réhabilitation du chef de guerre Sidiki. Ces accrochages ont lieu après la mort également cette semaine de deux casques bleus marocains attribués à des éléments de la LRA, la rébellion ougandaise de Joseph Kony, opérant dans le sud-est de la RCA. Au micro de Félix Yepassi-Zembrou, les explications de Jean-Fernand Kouena du réseau des journalistes des droits de l'homme pour le compte de la MINUSCA à Bangui.
Un élément bangladais a trouvé la mort hier dans une altercation entre les éléments 3R de Sidiki, qui est une faction de groupes rebelles qui vit dans l'Ampindé, et les éléments anti-Balaka qui se réclament des autodéfenses dans la localité. Ces éléments du contingent bangladais étaient en rescousse à la population civile en détresse pendant ce combat. Il faut noter que ce cas que nous déplorons tous intervient deux jours après l'assassinat des deux soldats marocains dans la partie est de la République centrafricaine, notamment vers Demio et Rafai. Alors, selon le communiqué de la MINUSCA, la MINUSCA accuse les forces non conventionnelles des 3R d'être les commanditaires et responsables de cet acte malheureux, alors que de leur côté, ils rejettent en bloc tout lien et ne se disent pas être coupables de cet assassinat meurtrier de ce soldat bangladais.
Jean-Fernand Kouena du RJDH, Réseau des journalistes des droits de l'homme en RCA. Actualité américaine maintenant, le président élu Donald Trump doit rencontrer ce vendredi les patrons des services de renseignement américains dans un climat tendu par son scepticisme concernant leur découverte sur une ingérence russe aux multiples facettes dans la récente campagne présidentielle aux États-Unis. Plus de précisions avec John Lindon.
Au programme de cette rencontre, la présentation du rapport réclamé par le président sortant Barack Obama sur les interférences commises selon ses services par la Russie dans le processus électoral américain. Moscou rejette catégoriquement ces accusations. Le rapport, qui doit être remis au Congrès dans les prochains jours, a été présenté au président américain hier après-midi. Dans une audition très attendue devant le Sénat américain hier matin, M. Clapper et le chef de l'Agence de sécurité nationale, l'amiral Michael Rogers, en ont donné un léger avant-goût. Mais ils n'ont pas fourni de nouveaux éléments susceptibles de prouver une implication russe. Ils ont néanmoins maintenu leurs accusations contre Moscou. La Maison-Blanche a déjà sévi avec des sanctions la semaine dernière, notamment l'expulsion de 35 diplomates russes. Et elle a prévenu que d'autres représailles suivraient. Moscou a prévu de réagir après la prise de fonction de Donald Trump.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Restez à l'écoute de VOA Afrique.